Merci Pierre-Michel. Bonjour à tous. Alors je vous préviens, je vais avoir beaucoup de choses à dire, mais je pense que je vais essayer de les dire assez rapidement, de manière à ce qu'on revienne sur ce qui vous intéressera le plus. J'essaierai de ménager suffisamment de temps dans la discussion pour revenir sur ce qui vous semble le plus intéressant, vu que je suis en fin de thèse et que j'ai beaucoup de choses à dire dessus. Donc, le 10 mai 1950, Harry Truman a mis un terme à un long feuilleton législatif en annonçant la signature du National Science Foundation Act. Par cette législation, le président des États-Unis a ratifié la création du premier organisme gouvernemental de ce pays en charge de, je cite, « la promotion du progrès scientifique » et insistera lors de son discours sur l'importance capitale de cette nouvelle agence qui, je cite, augmentera les connaissances dans toutes les branches de la science. Pourtant, il faudra attendre 7 ans pour que les sciences sociales soient officiellement intégrées à part entière dans cette agence. La remise en question de la pertinence d'une telle intégration, ayant jalonné l'histoire de la NSF, depuis les premiers débats sur sa création aux alentours de 1945, jusqu'à aujourd'hui. Le 7 février 2005, soit 55 ans plus tard, a été créée en France une nouvelle agence de financement sur projet, explicitement inspirée par le modèle de la NSF, l'Agence nationale de la recherche. Or, comme le relate le premier directeur du département de SHS de cette agence, la décision de la création d'un tel département SHS n'est pas allée de soi. Si les raisons pour lesquelles les sciences humaines et sociales n'ont pas été immédiatement prises en compte dans le cas français ne me sont pas connues, le cas états-unien a de son côté été largement documenté. Les citations suivantes mettent en évidence 3 types d'arguments qui illustrent la pluralité des réticences à l'égard de l'intégration des sciences sociales lors des débuts de la National Science Foundation. Donc la première citation dit « On est là pour financer de la science pure, la découverte de la vérité. Cela n'a rien à voir avec la théorie de la vie, cela n'a rien à voir avec l'histoire, cela n'a rien à voir avec le droit et cela n'a rien à voir avec la sociologie. » On peut parler ici donc d'une mobilisation du caractère impur des sciences sociales comme dénégation de sa légitimité à intégrer une instance de financement de la recherche. La deuxième citation dit « L'Américain moyen ne veut pas qu'un expert farfouille dans sa vie et ses affaires personnelles et qu'il décide pour lui comment il devrait vivre. Et si l'idée devient prégnante au Congrès que cette législation vise à établir une sorte d'organisation dans laquelle il y aurait beaucoup de femmes aux cheveux courts, et d'hommes à cheveux longs qui mettraient la pagaille dans les affaires personnelles de tout le monde et qui enquêteraient sur est-ce qu'ils aiment leurs femmes ou est-ce qu'ils ne les aiment pas, etc. Vous n'aurez pas votre législation. » Donc là, on a un deuxième type d'argumentaire autour du caractère à la fois intrusif et subversif des sciences sociales dans la vie des gens. La troisième citation, donc là c'était un sénateur et un député, là c'est Vannevar Bush, qu'on ne présente plus, qui a donc cette belle phrase qui dit « J'émets de grandes réserves à propos de ces études où quelqu'un sort, fait des entretiens avec un tas de gens, lit plein de trucs, écrit un livre, le met sur une étagère et personne ne le lit jamais. » Donc voilà, donc là on a 3 types de position, la troisième relevant plutôt l'absence de rigueur méthodologique et d'utilité scientifique des sciences sociales. Ça, ce sont un peu 3 familles d'arguments qu'on a pu retrouver dans le cas de la NSF. Alors j'ai cherché à ébaucher par cette courte entrée en matière le phénomène suivant. La relation entre financement compétitif de la recherche et les sciences humaines et sociales semble parfois moins évidente qu'elle ne l'est pour d'autres domaines. Partant de ce constat, mes travaux m'ont poussé à traiter 2 questions de recherche ici. La première, c'est quelles sont les spécificités des sciences humaines et sociales vis-à-vis des autres sciences, dans le cas de la France contemporaine. La deuxième, c'est, dans un contexte où les financements sur projet occupent une place croissante dans le fonctionnement des systèmes nationaux de recherche, quels effets peuvent produire une agence comme l'ANR sur un domaine a priori moins ajusté à un tel fonctionnement ? Cette communication propose de répondre partiellement à ces deux questions en présentant deux versants des recherches que j'ai menées tout au long de ma thèse, qui est en fin de rédaction. Donc, la première partie de cet exposé va traiter autour de la question des sciences humaines et sociales. Quelles spécificités ? Donc, l'idée, ça va être de fournir une objectivation de la position relative de ces disciplines dans l'enseignement supérieur français contemporain. Je pars en effet du principe théorique assez simple, mais assez peu appliqué, selon lequel les spécificités avérées ou supposées des sciences humaines et sociales ne peuvent être qu'appréhendées qu'en restituant ces domaines de connaissances au sein de l'ensemble des disciplines de l'enseignement supérieur et de la recherche, sans découper a priori. Dans la deuxième partie, pour étudier les effets produits par l'ANR sur les sciences humaines et sociales, je m'appuierai sur les résultats d'une enquête plus spécifiquement centrée sur les expériences d'individus et d'institutions dans ces domaines qui ont bénéficié de tels financements. J'en viens donc à ma première partie, qui cherche à interroger les spécificités des sciences humaines et sociales dans la France contemporaine. J'aborde empiriquement cette question sous trois principaux angles, les relations disciplinaires, les différences disciplinaires et les hiérarchies disciplinaires. Je ne détaille pas, mais je pourrais revenir sur cette tripartition. J'essaye de ne pas présupposer l'unité des disciplines des sciences sociales, de ne pas les nommer a priori, de ne pas les regrouper. Vous verrez, il y a un cas où ça n'a pas été possible. Mais voilà, et je vais à l'échelle la plus fine possible. Donc, dans le cas des relations disciplinaires, j'ai cherché à objectiver les proximités, compatibilités et circulations concrètes dans l'ensemble des disciplines pour objectiver des espaces disciplinaires et en déceler les régularités structurelles. J'ai donc effectué 4 analyses de réseau avec des matériaux différents, mais toujours strictement avec les mêmes métriques, algorithmes de spécialisation et de détection de communautés, sur lesquels je ne reviens pas ici, mais dont je pourrais discuter si vous le souhaitez. La première de ces analyses de réseau concerne les publiants du Web of Science. Donc oui, je pense que vous avez eu le temps de lire, mais l'idée, c'est de considérer que deux disciplines sont très proches. Si, par exemple, la discipline A va être très proche, très liée à la discipline B, si les, dans le cas des publications, si les individus qui publient dans A et dans d'autres disciplines publient beaucoup dans B. Donc le Web of Science, on y va. Donc là, c'est le seul cas où j'ai une catégorie sciences sociales a priori, parce que je me base sur les publications françaises. Donc c'est l'ensemble des publications dont au moins un des auteurs est affilié à une institution française recensée par le Web of Science entre 2008 et 2012. Et donc la discipline dépend des revues. La structure dégagée ici situe les sciences sociales à la croisée des humanités, de la psychologie et des champs professionnels, catégorie floue dont Yves parlait tout à l'heure, et qui agrège les domaines comme la gestion, les sciences de l'information, l'aménagement. Mais au final, avec une conception plus large des sciences humaines et sociales, on constate, grosso modo, leur position intermédiaire entre un pôle des arts et humanités, en haut, c'est bien, on voit bien, là c'est gros, un pôle biologie-santé et un pôle mathématiques-physique. La deuxième analyse de réseau, qui se base sur les co-qualifications au poste de maître de conférence du CNU, entre 2005 et 2013. Donc c'est l'ensemble des gens qui ont été qualifiés à au moins deux sections CNU pour accéder au poste de maître de conférence. C'est vrai que le système français n'est pas évident. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'ai fait avec Pablo Zamit qui était là ce matin et, voilà, et qui a donné lieu à une publication. Et il met en évidence une structure relativement circulaire partant, alors par exemple si on part de la zone jeune, donc les mathématiques, si on fait la boucle, on va faire mathématiques, physique, chimie, biologie, sciences sociales et à nouveau mathématiques. On constate une polarisation entre ce cercle d'un côté et un groupe des langues, lettres et humanités uniquement reliés à ce cercle par les sciences sociales. un point important dans cette structure est de noter la faiblesse des relations entre mathématiques en jeune et biologie en rouge. C'est important parce que j'en reparlerai après. La troisième figure s'intéresse aux mobilités disciplinaires des enseignants-chercheurs au cours de leur carrière. Donc là, c'est des cas où des maîtres de conférences qui étaient affiliés à une section donnée du CNU ont, au cours de leur carrière, changé de discipline, donc de la mobilité disciplinaire dont on parlait tout à l'heure. On y retrouve à peu près la même structure circulaire, mais davantage polarisée, avec donc les sciences biologiques qui sont très liées entre elles, mais plus distantes de la physique que précédemment. Et on notera, comme dans les deux cas précédents, les rôles des disciplines de la psychologie pour faire le lien entre biologie et sciences sociales, mais la position plus excentrée des disciplines de l'économie et de la gestion qui sont là, en bas, alors que tout à l'heure, elles faisaient le lien avec les mathématiques. Le dernier réseau, alors est-ce qu'il va être lisible? Je ne sais pas. Donc là, il faut me pardonner, mais il y a beaucoup de nœuds, en fait, dans ce réseau. Mais c'est les directions de thèse dans plusieurs disciplines. On retrouve une nouvelle fois cette structure circulaire dont les langues, lettres et arts sont exclus. Ici, gestion et économie font de nouveau le lien entre sciences sociales et mathématiques, de même que la psychologie et les sciences du sport assurent celui entre sciences sociales et biologie santé. Au final, donc, dans une approche des pratiques interdisciplinaires, les sciences sociales semblent assez stables, convergentes pour la plupart de ces disciplines, avec quelques mouvements, j'y reviendrai. Mais quoi qu'il en soit, on retrouve, malgré des matériaux différents, une structure, là, que j'ai résumée en bas, où les sciences sociales sont donc à la croisée des mathématiques, de la biologie, des sciences humaines. Et on retrouve donc ce cercle des sciences qui a fait l'objet de beaucoup de publications en scientométrie, mais qui s'applique donc parfaitement au cas français contemporain. Alors, je passe à la deuxième sous-partie, les différences disciplinaires. Là, ça va aller beaucoup plus vite, mais on pourra en discuter. Donc ça, c'est sur la base d'un matériau qu'on a obtenu dans le groupe de recherche de l'équipe dirigée par Pierre-Michel Menger sur les carrières des enseignants-chercheurs. Mais je vais simplement prendre, j'ai beaucoup coupé, je vais simplement prendre un graphique qui est en abscisse l'âge moyen d'entrée au poste de maître de conférence, en ordonnée l'âge moyen au poste d'entrée de professeur des universités. Chaque point est une discipline, et donc la taille des disciplines correspond aux effectifs, et la couleur c'est l'affiliation facultaire. Comme vous le savez, en France, il y a une tripartition, enfin hors médecine, parce qu'on n'a pas les données sur la médecine dans ce cas-là, entre les disciplines de la faculté de lettres, lettres et sciences humaines, sciences, et économie, droit, gestion, sciences politiques. Et alors ce qui est intéressant de voir, c'est comment on sent qu'il y a quand même un effet facultaire autour des rythmes des carrières des individus, ce qui est un peu embêtant pour les sciences sociales, dans la mesure où elles ne sont pas dans une seule faculté, en fait. Elles se partagent entre le vert et le rouge. On peut penser que la science politique, l'économie, la gestion semblent donc avoir des modes de régulation de carrière divergents de ceux des autres disciplines de sciences humaines et sociales, alors qu'on voit quand même que dans le cas des sciences, il y a une certaine concentration, c'est plus modal, et voilà. Et ça se passe avant aussi, parce que évidemment, les carrières littéraires sont plus tardives. Ça, c'est une autre manière de représenter cette chose-là. C'est au bout de combien d'années, quand on est maître de conférence, on devient professeur, selon qu'on est en droit, en rouge, en lettres, en vert, en sciences, en bleu. Et donc, on voit que les promotions sont extrêmement concentrées sur les débuts de carrière. On a beaucoup plus, on a plus de chances, si je puis dire. Donc, c'est le phénomène de l'agrégation du supérieur dans le droit. On passe professeur très vite une fois qu'on a été maître de conférence. Lettres, ben, vous voyez comme la courbe est étalée dans le temps, située entre, je ne sais plus, mais je crois que c'est la 6e et la 13e année. Et celle des sciences a à peu près le même profil, mais plus normé quand même. On sent que c'est un peu plus régulé. Je passe à nouveau. On passe au troisième point, les hiérarchies disciplinaires. Donc ça, c'est tiré d'un article qui est paru dans Actes de la Recherche l'année dernière, et où je me suis intéressé en fait aux différences entre les disciplines en ne prenant qu'une seule variable, c'est la profession des parents des étudiants. pour voir s'il y avait des régularités dans la composition sociale à une échelle fine des disciplines. Parce qu'il y a toute une littérature qui va prendre deux disciplines ou qui va prendre des facultés, mais là, je les ai prises toutes. Et donc, je les ai prises en 26 catégories socioprofessionnelles. Et donc là, c'est une classification ascendante hiérarchique qui va rassembler les disciplines entre elles selon qu'elles se ressemblent le plus dans la composition de la profession des parents, des étudiants. Et donc, vous allez voir qu'il y a un premier groupe, le groupe A, qui est composé de la médecine et de la pharmacie d'un côté, de disciplines qui sont assez proches, un autre groupe de la philosophie et des sciences, de la philosophie et des sciences politiques. Et si vous voulez savoir un petit peu quels sont les profils de ces classes-là, vous avez sur la droite, donc la classe A, ce qui est en noir, ça veut dire que c'est surreprésenté, ce qui est en gris, c'est sous-représenté. Donc, sans surprise, en médecine et en pharmacie, en philosophie et en sciences politiques, il y a une très forte surreprésentation d'enfants de profession libérale et une très forte sous-représentation d'enfants, d'ouvriers qualifiés, d'employés de la fonction publique, etc. Là où j'attire votre attention, parce qu'on a beaucoup parlé du genre, et c'est vrai que souvent quand on fait une littérature autour de des biais sociaux disciplinaires, on dit les sciences c'est des disciplines pour garçons et les lettres c'est des disciplines pour filles, ce qui est absolument vrai. Mais si on prend la profession des parents tendancielle, ben on se rend compte qu'ici qu'il y a absolument toutes les sciences, sauf les mathématiques appliquées qui sont affiliés avec l'économie, ce qui n'est pas totalement incohérent non plus, si on revient à ce que j'ai montré tout à l'heure. Donc toutes les sciences semblent avoir un profil social, ou en tout cas un profil d'origine sociale, assez similaire entre elles et assez différente des autres. Donc voilà, ça c'est pour vous dire. En fait, ma conclusion de cette... Alors oui, j'ai une autre manière de le représenter, ça c'est, pardon, une analyse en composantes principales qui résume un peu toutes ces données-là. À gauche, ça vous dit qu'est-ce qui construit les axes. Donc, plus on est en haut sur le graphique de droite, plus on est profession libérale, cadre de la fonction publique, cadre d'entreprise, et moins on est ouvrier qualifié ou ouvrier non qualifié, etc. Et si vous regardez, donc avec cette analyse en composantes principales, les disciplines des sciences, qui sont représentées par des petits triangles, sont assez distinctement séparées des disciplines des lettres, qui sont des petits ronds. Et tout ça pour vous dire qu'en fait... Moi, l'hypothèse que je développe dans ma thèse, c'est qu'on parle d'une spécificité des sciences sociales comme quelque chose qui relève de l'épistémologie, comme s'il y avait autour des phénomènes sociaux quelque chose qui faisait qu'on ne pouvait pas vraiment être une science comme les autres, qu'on était une science qui avait plus de difficultés, etc. Et moi, ce que je trouve empiriquement, c'est que dans les pratiques interdisciplinaires, il n'y a pas de coupure nette entre les sciences sociales et les autres sciences, mais dès qu'on commence à regarder les institutions, les principes de promotion des personnels et l'orientation et le profil social des étudiants, ben là on se rend compte que les sciences sociales sont systématiquement écartelées autour de profils très différents, là où les vraies sciences, dont on parlait tout à l'heure, se retrouvent renforcées dans leurs principes. C'est-à-dire que certes elles collaborent beaucoup entre eux, mais en plus elles ont des systèmes de promotion et de carrière qui sont les mêmes, et en plus, elles ont des profils sociaux qui font que les étudiants se ressemblent pas mal entre eux. Donc voilà, j'avais résumé ça, mais je l'ai dit un peu comme ça. Les disciplines des sciences sociales, donc quelle spécificité des sciences sociales ? A priori, pas tellement dans la pratique, mais plutôt des logiques hétéronomes au champ scientifique. Alors scolaire, je ne rentre pas là-dedans, je l'ai mis à la fin du PowerPoint si jamais j'avais le temps, mais je sens que je ne vais pas l'avoir. Des logiques facultaires, des logiques sociales qui affaiblissent la cohérence interne du groupe des disciplines des sciences sociales et renforcent la distinction avec les sciences non sociales. Et inversement, donc, on a vu que dans les pratiques, des relations entre sciences biologiques et sciences mathématiques, il n'y en a pour ainsi dire absolument pas. Pourtant, institutionnellement, quand on pense sciences, on va penser tout de suite une grande famille de disciplines, d'où les sciences sociales sont exclues. Je trouve que dans la pratique, au final, ce n'est pas nécessairement si cohérent. Fin de la première partie. J'en viens maintenant à la question plus spécifique du financement sur projet et de la relation entre sciences humaines et sociales, financement sur projet, pour savoir quels effets cela peut avoir. Alors, comme l'a bien indiqué Helga Novotny tout à l'heure dans sa présentation, Moi, un des principaux résultats de mon enquête, oui, alors, donc voilà, c'est une enquête. J'ai été mandaté par le Conseil scientifique de l'Institut des sciences humaines et sociales du CNRS pour mener une enquête sur les effets des financements sur projet. Donc, j'ai fait ça. Et donc, l'un des principaux résultats de mon enquête, donc, qui semble converger aussi avec l'expérience ERC, c'est que plutôt que de rebattre les cartes des hiérarchies entre individus, laboratoires et établissements, comme c'est souvent présenté à la fois positivement ou négativement, c'est-à-dire les détracteurs des financements sur projet vont dire « cette agence va tout détruire », et les promoteurs vont dire « mais non, au contraire, ça va lutter contre des injustices », dans les faits, moi je trouve que c'est surtout un reproducteur, voire un amplificateur de hiérarchies préexistantes, en fait. Alors maintenant, je vais rentrer un petit peu dans les détails. Un des principaux contrastes qui est ressorti des témoignages sur les expériences de coordination de projets est lié à l'aide ou à l'absence d'aide fournie par les institutions dont relèvent les porteurs. Alors là, j'ai mis quelques exemples des réponses que j'ai eues, donc je vous en dis quelques-unes. Donc là, il y a quelqu'un en histoire qui dit « aucun soutien de notre université, aucun soutien du laboratoire auquel nous étions rattachés, ce qui a entraîné un changement de laboratoire la dernière année du programme. On va prendre « en raison d'un conflit dans mon laboratoire d'origine, il y a eu un blocage administratif du dossier en interne, ce qui a retardé le début du projet de 3 mois environ. Le montage et la gestion administrative du projet sont lourds. Il est préférable d'appartenir à une structure de recherche bien dotée en personnel administratif pour une réelle efficacité et dégager le temps nécessaire à la recherche fondamentale. Ou inversement, l'aide apportée par le personnel administratif a été déterminante pour la mise en place et le suivi du projet, etc. » Donc on sent que quand on demande aux gens ce qui a été difficile, ce qui leur vient à l'esprit quand même, c'est que l'accompagnement de l'institution et l'infrastructure de l'institution, ben c'est pas complètement négligeable. Or, si l'infrastructure est une dimension importante de la coordination des projets et qu'elle varie fortement selon les universités et établissements des chercheurs, ce qui est notoirement le cas, alors il est probable qu'un individu appartenant à une institution bénéficiant d'une infrastructure adaptée à ce type de pratique soit structurellement favorisé dans les démarches de candidature et de coordination de projets. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'à la fin des années 1970, il y a un ancien directeur du programme de sociologie de la National Science Foundation qui faisait un petit peu un bilan sur son expérience là-bas. Et il indiquait que, statistiquement, les chercheurs des départements prestigieux de sociologie n'avaient pas un taux de succès significativement supérieur à ceux des autres départements. Ils étaient même plutôt inférieurs, ils rataient plus souvent. Mais par contre, le nombre de leurs candidatures était drastiquement plus élevé, ce qui conduisait mécaniquement à ce qu'il soit, au final, plus financé. Alors, vu que j'ai passé un peu de temps aux États-Unis et que j'ai fait une enquête là-bas, j'ai pu prendre la mesure des disparités considérables d'accompagnement à la demande de financement selon les établissements. Dans les grandes universités états-uniennes, on va avoir des grant managers, qui sont des gens salariés à plein temps pour consulter les appels d'offres, les suggérer aux chercheurs du département dont elles ont la charge. Ils rédigent les budgets, une bonne partie, ils facilitent une bonne partie du travail. Inutile de dire que l'infrastructure pour débloquer des fonds est assez efficace dans ces universités. Et de tels postes, aujourd'hui, ont vu le jour en France, mais pas partout, dans certains établissements les plus riches des sciences sociales. Il est, je pense, raisonnable de supposer que de tels aménagements soient propices à la reproduction et à l'amplification des disparités de ressources préexistantes. Cette hypothèse a d'ailleurs été étayée par un entretien auprès d'un porteur de projet. Je neutralise le sexe de mes enquêtés, donc j'utilise le masculin. Donc un porteur de projet ayant pris part par le biais de ses nombreuses fonctions en lien avec l'administration de l'ESR aux transformations dont l'ANR est l'une des manifestations. Et il m'a expliqué ainsi que l'une des fonctions de l'ANR a été d'officialiser des hiérarchies qui jusqu'à présent étaient implicites entre les établissements et qu'il serait souhaitable, je cite, de créer une stratification dans notre système d'enseignement supérieur et de recherche. Et là, bon, pour conforter ces dires, je vous donne un petit extrait d'entretien de Jacqueline Lecourtier, ancienne directrice de l'ANR, qui déclarait donc. Alors, on lui avait dit « des critiques affirment que les bons laboratoires ont désormais trop d'argent grâce à l'ANR », ce à quoi elle a répondu « tant mieux ». toute ma carrière, j'ai vu les bons et les mauvais recevoir les mêmes sommes. Si les bons laboratoires ont trop d'argent, qu'ils arrêtent de concourir. Leur réussite n'est pas étonnante. Ils savaient qu'ils étaient compétitifs et se sont rués sur nos appels d'offres. Donc cette conception, qui pourrait qualifier de darwinisme social appliqué aux sciences sociales, me pousse à émettre l'hypothèse selon laquelle la principale incidence de l'accroissement du poids relatif des financements compétitifs sur projet est de reproduire et d'amplifier des hiérarchies déjà existantes par le biais d'une concentration des ressources pour la recherche entre disciplines, établissements, unités de recherche, équipes et individus sur la base de pratiques disposant d'une forme de légitimité scientifique. Donc ça, j'y reviendrai. Alors, je vous propose un long exemple, mais que je trouve intéressant, qui est le cas d'une mauvaise expérience de l'ANR. Donc là, c'est un individu qui me dit « c'est dur, parce qu'en fait, on n'a pas de compétences pour gérer ça. On n'a pas d'ingénieur d'études à qui on peut déléguer la gestion des programmes, et le dispositif ANR exige que ce soit les responsables du programme qui pilotent. Du coup, on se retrouve à diriger une espèce de petite PME pendant 3 ans. Le budget, le personnel, les tâches, la logistique, etc. Et en même temps, évidemment, il faut produire. » Donc je saute. J'avais candidaté avec une collègue, mais qui en fait a pris sa retraite et s'est retrouvée embarquée dans un autre projet. Donc je me suis retrouvé un peu seul pour gérer l'ensemble d'un programme. Et donc, à la première évaluation, j'ai présenté les premiers résultats. Et puis il y a eu une deuxième rencontre orale, très peu de temps après la fin du contrat. J'ai donc rendu le rapport final, et le retour était extrêmement négatif. Parce qu'on m'a reproché de ne pas avoir impliqué suffisamment d'universitaires. Mais l'implication des universités est relativement difficile, surtout sur un projet comme celui-là. Et pendant ce temps, j'enseigne, parce que dans notre université, on veut bien qu'on ait des contrats ANR, mais on n'a pas de décharge d'enseignement. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très très lourd. Donc pas de décharge d'enseignement. Ici, on voit bien que se sont accumulés de nombreux freins au projet. Faible possibilité de mobiliser un réseau de chercheurs, faible influence sur les quelques partenaires disponibles, absence de soutien de l'établissement, charge d'enseignement, délégitimation du travail accompli. Tout se passe donc comme si l'ANR constituait une forme de rappel à l'ordre, attribuant une lourde sanction au nom du monde de la recherche qui, selon ses critères implicites, jugerait que cet individu n'aurait pas dû porter un tel projet. Alors on peut imaginer la violence d'une telle expérience, et elle est clairement liée à une série de hiérarchies dont le détail donnerait trop d'indications sur l'enquêté, mais qui sont avérées. Alors je me perds. De manière plus générale, on pourra évoquer comme critère facilitateur pour l'obtention de financement l'institution de rattachement où s'opposent en premier lieu les chercheurs. Je peux mettre la citation sinon. Vous allez trop regarder ça. L'institution de rattachement où s'opposent en premier lieu les chercheurs aux enseignants-chercheurs, ces premiers disposant bien sûr de davantage de temps et donc de disponibilité pour les activités de recherche. À titre d'exemple, donc j'ai fait simplement le ratio. Donc moi, j'ai codé l'ensemble des gens qui avaient eu un projet SHS entre 2005 et 2012. Et j'ai codé si c'était des hommes, des femmes, des chercheurs, des enseignants-chercheurs, les disciplines, tout ça. Pas seulement les répondants, hein, tous les gens qui ont eu un financement sur projet. Et globalement, le ratio des maîtres de conf et PR est 3 fois inférieur à celui des CRDR, en prenant en compte des effectifs potentiels qui auraient pu avoir ce type de financement. Donc voilà, c'était une petite objectivation rapide qui montre que j'ai longtemps entendu au cours de mon enquête que l'ANR permettait notamment de redistribuer les cartes vis-à-vis des enseignants-chercheurs. De ce que j'ai pu en voir, ce n'est pas exactement le cas. De même, au sein de ces catégories se distinguent fortement les institutions parisiennes, de la banlieue parisienne, des grandes villes de province, d'autres villes de province. Entre les enseignants-chercheurs se joue également une hiérarchie importante, alors évidemment entre les grands établissements, mais pas que. Entre équipes d'accueil et unités mixtes de recherche, etc. De même, le fait d'avoir une HDR, ça permet de mobiliser plus facilement des doctorants et des post-doctorants. Et il y a la question disciplinaire, sur laquelle je vais revenir un petit peu après. Et il y a quand même la dimension du genre, sur laquelle je termine sur cette partie, parce que c'était assez saillant dans mon enquête. Mais c'est plus méthodologique, mais c'était intéressant parce que certains enquêtés, tous des hommes, qui avaient déclaré dans le questionnaire avoir produit et géré leur projet sans aide administrative, ont de fait en entretien, après questionnement, précisé avoir bénéficié de l'aide de leur laboratoire. Et ce biais genré quant à la conception de ce qui constitue une aide à signaler fut exemplairement mis en évidence lors d'un entretien où j'ai d'abord rencontré un enquêté seul et où une collaboratrice de cette recherche nous a rejoints. Et on est passé très tranquillement d'une success story menée à bout de bras à un récit nettement plus nuancé, mettant notamment en évidence l'apport décisif des personnels administratifs et du réseau mobilisé pour la rédaction du projet et son bon déroulement. 2.2. Il me reste combien de temps à peu près ?
Il reste encore
10 minutes, c'est parfait. Donc si le fonctionnement compétitif de ces appels à projets conduit à reproduire et amplifier des hiérarchies existantes, les compétences qu'il convient de mobiliser constituent quant à elles une transformation dans la hiérarchie des pratiques, cette fois-ci, dans les sciences humaines et sociales. Moi, mon hypothèse, c'est que je ne pense pas que ça va chambouler les hiérarchies entre individus, établissements, etc., mais par contre que ça va transformer les pratiques des individus en sciences humaines et sociales. Alors d'abord, parce que le fait d'obtenir un financement est devenu une pratique importante, symboliquement, et du coup, l'expérience antérieure de ce type de pratique constitue désormais une plus-value majeure pour parvenir à en obtenir de nouveau, selon le classique effet, et avec plus de facilité. En effet, si l'un des arguments récurrents pour critiquer l'ANR, quelles que soient les disciplines, tient au temps consacré à l'obtention de tels financements, on est à peu près sur les pourcentages de l'ERC à l'ANR en sciences humaines et sociales, c'est autour de 10%, et il est important de prendre en compte que cette durée, en fait, le temps passé à écrire un projet, c'est très dépendant de l'expérience qu'on a de ce genre de pratique. Et donc, de manière agrégée, ici résumée un peu rapidement, les réponses au questionnaire mettent en évidence qu'une forme d'expérience des financements sur projet ou d'évaluation pour l'ANR est négativement corrélée au temps passé à l'écriture des réponses aux appels. Ainsi, les individus expérimentés, qu'ils aient déjà candidaté ou obtenu des financements sur projet, ou encore appartenu à des jurys ANR, ont tendance à consacrer moins de temps à ces réponses. En tout cas, ils le déclarent. Dans la mesure où le temps perdu est l'un des principaux reproches adressés à l'ANR, il semble raisonnable de penser que cette étape soit moins contraignante pour ces individus. En entretien, on voit s'opposer deux figures à ce propos. Celle du nouveau candidat, qui doit se familiariser avec les codes propres à la réponse aux appels au projet, et inversement la figure du vieux briscard des financements sur projet, pour qui la réponse n'a pris que 2 à 3 semaines maximum. De ce point de vue, il est intéressant de noter qu'une transformation notable, à mes yeux, est celle du prestige, donc, dont je parlais tout à l'heure, attribué au financement. Et donc là, je vais vous donner 2 extraits d'entretien de chercheurs qui, au moment où je les ai rencontrés, n'étaient pas très loin de la retraite. Et donc le premier, il dit « Je me souviens très bien que pendant des années, les collègues, ils ne voulaient pas rentrer les contrats. » Donc « rentrer les contrats », il veut dire « les enregistrer dans l'abintel », ce qui parlera sûrement à certains d'entre vous. Pourquoi ? Parce que faire du contrat, l'idée d'afficher qu'on avait des contrats était une idée monstrueuse. Il n'était pas question d'en parler. On avait des contrats, d'accord, tant mieux pour nous. Mais franchement, il n'y avait pas de quoi se vanter. Et donc, ce qui fait que, pendant une période très longue, les gens n'ont pas rentré leur contrat dans la bintelle. Et on ne le mentionnait pas dans les rapports d'activité du labo, et certainement pas dans le rapport d'activité individuel. Et alors, aujourd'hui, quand je vois le président de tel établissement, qui, ils ont un misérable contrat européen, bon, il y a beaucoup de pognon, mais je veux dire, un contrat européen. Et il publie ça sur le web en disant « Chers collègues, nous avons le plaisir de vous annoncer que notre collègue untel... » Mais c'est grotesque, enfin. Deuxième enquêté, donc ce sont 2 individus différents. Et ça, moi, je trouve que profondément énervant. C'était un entretien compliqué. Moi, je n'ai aucune fierté d'avoir eu une ANR. Je suis content parce que j'ai pu faire de la recherche. Je suis content du livre qu'on a sorti. Bon, on peut le dire, ça arrive d'être content. Là, je suis content. Je suis très content du site, je pense qu'il y a une vraie réflexion qu'on a faite. Après, aux autres de me dire si c'est vrai ou pas. Mais d'avoir une ANR, non. Alors là, je lui dis, mais pourtant, vous sentez bien que ça peut se... Ah ben, ça se retrouve, c'est évident, bien sûr. Même moi, on me l'a dit, qu'en tant que directeur de labo, 2, 3 fois, le directeur de l'établissement qui m'a dit, toi qui as eu un nombre élevé d'ANR, enfin ton labo. Et alors, ce que je trouve intéressant, c'est de comparer... ce rapport un peu distancié et ironique par rapport au succès au financement sur projet, à la déclaration d'un jeune chercheur d'aujourd'hui. Alors, c'est plus gros, mais Il me dit « Néanmoins, j'aimerais attirer votre attention sur une autre... Il me semble que le temps consacré à la rédaction d'un projet, qui représente 40 pages, enfin c'est variable, le temps consacré à la rédaction d'un projet devrait faire qu'on reconnaisse le texte même du projet, le manuscrit du projet, comme une, presque comme une publication scientifique. Il faudrait inventer, à mon avis, une nouvelle catégorie, qui serait celle-là, pour valoriser ce travail, dans le CV ou dans le... Parce que c'est pas juste la soumission, c'est la rédaction, hein, d'un document qui représente un travail qui peut être parfois plus important que celui de la rédaction d'un article, alors que c'est pas reconnu. Donc c'est vrai que quand on met en miroir les représentations que se font certains chercheurs longuement habitués à faire du contrat, à l'hypervalorisation de la démarche du projet, on voit qu'il y a quand même certaines modifications. En tout cas, c'est mon avis. Non, il ne faut pas aller encore là. Entre ces prises de position opposées, s'intercalent bien sûr des témoignages plus distanciés à l'égard des financements, du simple fait que cela ne change pas profondément les modes d'activité. Pour conclure brièvement et tenter une articulation des résultats des deux parties, on peut revenir sur la question disciplinaire. Alors on peut dire à grands traits, même si je l'ai étudié un peu plus finement quand même, que les sciences humaines et sociales se clivent du point de vue des financements sur projet selon un spectre allant de l'économie à la psychologie, enfin de l'économie et de la psychologie d'une part, discipline très familiarisée à ce type de pratique, davantage composée de cursus scientifiques, ça je pourrais y revenir si on a le temps, et faisant largement usage des techniques statistiques. Chose qu'on opposerait à, par exemple, l'histoire et la philosophie, caractérisées par une distance et une difficulté beaucoup plus grande pour s'adapter à ces savoir-faire, aux formations initialement plus littéraires et à l'usage moins fréquent des techniques mathématisées. De nombreux enquêtés ont fait négativement référence à des disciplines distantes de la leur sur ce spectre pour valoriser leur propre pratique. Ainsi, un enquêté proche du pôle économie-psychologie déclare « Moi, j'ai des collègues qui sont dans leur tour d'ivoire, qui ne répondent jamais rien au niveau des appels d'offres, qui se protègent. Voilà, des franciscains. Ou bien ils sont des franciscains, ou bien ils sont un peu pique-assiette. C'est-à-dire qu'on a besoin d'eux aussi. Parce que moi, comme je passe mon temps à faire du fundraising, j'ai pas forcément le temps. Mais bon, après, on peut avoir comme idéal de vie d'entrer dans un grand établissement, d'avoir un bureau où on lit du John Dewey toute la journée. Inversement, pour un enquêté proche du pôle historique, il va me dire, du point de vue de la demande publique, l'économie, c'est vachement plus vendeur que la sociologie. Donc nous, on était un espèce de supplément d'âme. En termes de méthode, on va vraiment voir les gens. Une caution scientifique aussi, parce que ça fait plus recherche désintéressée. Mais on n'était que complémentaire au truc vraiment central et qui nous semblait plus répondre à la demande publique, qui est le truc économique. Alors, j'ai un dernier cas de quelqu'un qui se situe entre les deux pôles. Il tire à gauche et à droite. Moi, je suis toujours impressionné par les historiens. Ils sont capables de faire des contorsions pas possibles pour expliquer qu'ils ont besoin de 1000 euros. Pour des trucs ridicules, si tu veux. Puis un peu plus loin, il dit, par exemple, les économistes, ils sont capables de récupérer des montagnes d'argent pour rien faire. Parce qu'ils font que des modèles, donc ils ont besoin de rien en réalité. Trois fois rien. C'est vraiment pour se verser des sursalaires. Et là, c'est une honte. Parce que là, ils dévoient le système. Ils noyotent les... Moi, j'ai vu ça. Ils noyotent les comités d'experts avec « ils font bloc sur les décisions », alors que les sociologues, par exemple, sont toujours en train de s'empailler entre des tendances théoriques différentes. Les économistes standards, en particulier, font complètement bloc, donc tous leurs projets passent, alors que les sociologues se font démonter. Déjà, ils font moins de projets, et en plus, le peu qu'ils font, l'expert sociologue du labo d'à côté va dire « c'est une connerie ». Donc voilà, sans rentrer davantage dans les exemples, très nombreux, Ça, on aime bien parler de ces choses-là. Il ressort de cette polarité une opposition qui me semble assez claire entre deux systèmes de valeurs qu'on peut décrire sur la base de critiques qui leur sont portées, en fait. On a d'un côté des chercheurs qui sont caractérisés comme une élite privilégiée, individualiste, égoïste, ne mettant pas la main à la pâte dans le laboratoire, mais bénéficiant des financements des autres, donneurs de leçons, porteurs de grands principes, mais ne se les appliquant pas à eux-mêmes. Donc, les caractéristiques, on va dire, c'est aristocratisme gauchiste, c'est bien quand on est dans tel arrondissement de Paris, quand on habite dans celui-là, on va traiter de pique-assiette, on va parler de tour d'ivoire, et ça va être des gens qui vont être plutôt hostiles au financement sur projet.
Et d'un autre côté, on a les arrivistes opportunistes vendus aux dents qui rayent le parquet, qui aiment jouer aux chefs, les petits patrons, les nouveaux riches, les chercheurs qui font des courbettes, sans scrupules, dangereux, prédateurs, qui eux sont plutôt favorables au financement sur projet. En positif, se distingue donc la figure du chercheur engagé et désintéressé, s'opposant aux injonctions gouvernementales qui nuisent à la bonne conduite scientifique, associant fréquemment sa pratique à celle de l'artisan et qui valorise l'écriture de livres versus le chercheur pragmatique, entrepreneur, qui travaille pour subvenir aux besoins de son équipe et qui envisage la recherche comme un travail collectif où il est important d'acquérir de bonnes conditions de travail dans un domaine où les ressources sont rares. De ces figures rapidement dépeintes se dégage une opposition classique, hein, un peu entre valeurs aristocratiques et valeurs bourgeoises, héritiers et parvenus, ressources culturelles et économiques. Et sans trop caricaturer, il me semble, à la fin de cette enquête, qu'il y a une sorte de transition du système de valeurs au sein des sciences humaines et sociales, depuis un premier modèle, plutôt aristocratique, vers le second, ce qui pourrait se lire, d'une certaine manière, comme une perte d'autonomie relative du champ des sciences sociales vis-à-vis des valeurs dominantes, plutôt économiques, de l'espace social. Mais c'est une interprétation parmi d'autres. Je vous remercie.